Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On a abordé la dernière fois le numéro 834 dans le contexte des églises particulières, c'est-à-dire ces églises qui font partie de l'Église universelle, mais qui rassemble des fidèles un peu partout. Et on a vu que Rome était une Église particulière, mais qui préside toutes les autres Églises. Est-ce qu'il faut que toutes les Églises particulières soient dans une parfaite obéissance avec l'Église de Rome ?
C'est une question qui a parcouru toute l'histoire de l'Église, et c'est vrai qu'on peut, dans l'obéissance, voir des degrés différents. Par exemple, dans les premiers siècles, on voyait comme une cour de cassation, c'est-à-dire que Rome n'était sollicitée, d'abord elle était loin, il fallait des bateaux, il fallait des journées entières pour la rejoindre, on n'avait pas Internet ou d'autres moyens de communication rapide, donc ça prenait du temps. Et on considérait Rome comme une sorte de cour de cassation, c'est-à-dire s'il y avait eu un litige entre églises particulières, on pouvait faire remonter à Rome la question, et Rome tranchait en quelque sorte entre un métropolite d'une région et une église suffragante, église particulière, qui dépendait de cette métropole. Et il y avait droit donc à remonter à Rome, on le voit dans le concile de Smyrnium au 9e siècle. Et donc il y a eu cette certitude de foi que les évêques avaient à maintenir cette communion avec le siège apostolique. Tout simplement, nous le disions la dernière fois, à cause de ce rôle prééminent que l'Écriture donne à Pierre. Je vous rappelle ce passage, pour ceux qui aiment bien avoir les renvois à l'Écriture. Actes, chapitre 23, verset 11. Le Seigneur vint trouver Paul et lui dit « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Donc ce témoignage, c'est le témoignage apostolique. Et évidemment, l'Écriture ne se répète pas, il va de soi que c'est aussi valable pour Pierre, mais le pape est le successeur de Pierre et Paul. On l'oublie parfois, on le prend toujours seulement comme successeur de Pierre, mais il était aussi successeur de Paul. Et donc cet engagement fait qu'il y a ce rôle particulier qui est donné à cette cité qui était le centre pendant 3 siècles quand même, de la persécution contre les chrétiens, puisque entre la mort de Jésus décidée par un émissaire romain, Pilate, aux environs de l'an 30, jusqu'à ce que Constantin lève cette persécution, il y a eu pratiquement 300 ans de non-stop de persécution. Et donc c'est très beau de voir que Jésus ait choisi ce centre qui était l'épicentre en quelque sorte de la persécution pour en faire le centre de sa chrétienté.
Et certains disent l'Église a été créée, inventée au 4e siècle, mais Jésus n'avait pas du tout pensé à tout ça, et encore moins à Rome. Certains disent que c'est complètement fou de dire que l'Église a été voulue par Jésus à Rome. Mais on a vu dernièrement que saint Ignace d'Antioche, il parlait déjà de ce rapport à Rome, non ?
Oui, que cette Église qui préside à la charité, il le dit manifestement, dès les origines, je dirais, il y a cette conscience universelle. Les tout premiers témoins écrivains ecclésiastiques apportent leur contribution pour fortifier notre foi dans le ministère pétrinien, qui est un ministère de service. Et Jésus ne met pas Pierre au-dessus des autres, mais il le met au service de cette unité, au service, comme lui-même s'est montré, exemplaire en lavant les pieds de ses apôtres et en leur rappelant « Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien car je le suis ». Et il les invite à ce moment-là à l'imiter. Et cette autorité que Jésus a transmise à ses apôtres, eh bien, les successeurs des apôtres en jouissent évidemment dans la mesure de leur foi et dans la mesure de leur capacité à recevoir la sainteté de Dieu. Il y a du plus, il y a du moins. Et nous devons prier pour Pierre, comme a fait l'Église primitive. Je vous rappelle, dans les Actes des Apôtres, quand Pierre était en prison, eh bien, la communauté s'est mise à prier pour que Pierre puisse échapper à la persécution. Et de fait, cette prière a été exaucée, puisque Pierre est sorti de prison. Vous voyez, je crois qu'il y a depuis l'origine des chrétiens un sens éminent de cette dignité pétrinienne qui marque donc l'histoire de l'Église. Évidemment, l'histoire montre bien que la façon de faire, la façon d'agir peut être très différente d'une époque à une autre. Hein. Comme toujours, le conditionnement humain joue beaucoup, mais l'Esprit-Saint que Jésus a promis à son Église serait de nous conduire à la vérité tout entière. Donc ça, cette parole est très forte dans l'évangile de Saint Jean, et nous devons la tenir comme étant une certitude de foi que, quelles que soient les avanies par où nous passons, eh bien, Jésus, lui, maintient ses promesses jusqu'à la fin des temps.
Et puis on se souvient donc que Pierre a reçu les clés du royaume, et ces clés, il les a pas emportées dans la tombe. Donc on sait que ça a été transmis, et dès les débuts de l'Église, on reconnaît qu'il y a eu un rapport à Rome très particulier et immédiatement. Donc ça veut dire que Pierre a transmis avec ses clés de l'Église l'idée qu'à Rome, il y avait quelque chose de spécial dans cette Église liée à lui-même. Est-ce que dans l'histoire, il y a eu un passage qu'on connaît bien où les papes sont allés à Avignon ? Est-ce que c'est une période où il n'y avait donc plus d'église puisque les papes n'étaient plus à Rome ? Ou est-ce que ça peut être normal aussi que des papes soient dans d'autres villes, dans d'autres endroits ?
Alors, il est clair qu'il a pu y avoir, comme le peuple juif qui a été exilé en Babylonie et demeuré intégralement le peuple élu, le peuple des alliances, le peuple de l'inspiration prophétique. Et ce n'est pas parce qu'il résidait en Babylonie qu'il n'était plus sujet des promesses vis-à-vis de la Terre Sainte que Dieu leur avait promis. Et donc, je dirais qu'analogiquement, on peut dire la même chose pour ces années d'éloignement de Rome où le pape en Avignon continuait à dire qu'il était le pape de Rome, l'évêque de Rome. Donc il dirigeait cette église particulière de loin, en quelque sorte, exilé qu'il était, comme d'autres papes ont connu des exils à Salerne, comme le pape Grégoire VII ou le pape Pie IX, qui ont été obligés de s'exiler au nord de Rome, ou à Orvieto, quand il y avait la peste, ou au moment où notre cher saint Thomas d'Aquin est allé vivre à Orvieto auprès du pape. Bon, ben, tout cela, c'était des exils provisoires. Et sainte Catherine de Sienne ou sainte Brigitte de Suède n'ont cessé de rappeler au pape que leur poste était quand même d'être aux aguets à Rome et non pas en exil, et ont tout fait pour que le pape revienne à Rome, parce que parfois on prend des habitudes à l'étranger, un peu comme les juifs en Babylonie. Ils s'étaient habitués à leur vie un peu plus cossue en Babylonie, ils ont eu du mal à revenir avec Esdras et Néhémie, à rebâtir le temple, à redémarrer la vie rituelle à Jérusalem, et il a fallu un gros effort personnel pour détacher toutes ces familles et toutes ces communautés pour revenir dans la terre promise. Et s'il n'y avait pas eu les prophètes, s'il n'y avait pas eu la force de Dieu, les atavismes, le conditionnement humain auraient fait qu'ils seraient restés en Babylonie.
Alors le pape revient à Rome, donc, et il y a toujours cette unité des églises particulières à l'église de Rome. Mais le numéro 835 du catéchisme de l'Église catholique rappelle quand même que l'Église universelle ne doit pas être comprise comme une simple somme ou fédération d'églises particulières. Alors quelle différence entre un agglomérat d'églises et l'Église catholique telle qu'on l'a reçue dans la foi?
Et c'est son origine, donc, cette présence de l'Église universelle qui fait que les églises particulières sont ce qu'elles sont, ça fait partie de leur identité. Et pour bien montrer cet aspect d'église universelle, au cours de la messe qui a lieu dans chaque église, de chaque église particulière, on rappelle une prière spéciale pour le pape, pour marquer cette dimension universelle, c'est-à-dire l'aspect pétrinien nous rappelle sans cesse que nous appartenons à l'Église universelle et non pas seulement à une Église particulière. L'Église particulière est aussi bien sûr nommée avec la mention d'une prière pour l'évêque du diocèse dans lequel on réside, mais on le fait toujours en communion avec la présence de Pierre et de ses successeurs au cours de cette prière qui est énoncée dans le canon eucharistique. On appelle ça les diptyques dans les liturgies orientales. Et pour reconnaître qu'une forme liturgique est en communion avec l'Église catholique, il faut être attentif justement à ces diptyques pour voir si le nom du pape est prononcé ou pas. Il y a de multiples formes rituelles. Si vous allez en Angleterre, par exemple, vous risquez, en rentrant dans une église anglicane, de ne pas savoir si elle est unie à Rome. Anglicanorum Cetibus a permis à pas mal d'anglicans de revenir dans l'Église catholique, mais à ce moment-là, au cours de leur prière, il y a la mention du pape. Et c'est là qu'on voit la différence avec une simple, je dirais, communauté ecclésiale qui a perdu le sens de cette universalité.
Merci, frère Edouard. À bientôt.
À bientôt.